à son enfant, qui parle à ses enfants, qui nous parle à nous, à vous, à moi. Et dans le texte dont nous allons parler aujourd'hui, il s'adresse particulièrement au Fils, mais en fait, ça nous concerne tous, hommes, femmes. Il nous appelle. Il y a plus de 10 ans, peut-être à peu près à l'époque où l'église a été implantée ici, j'ai fait partie d'un groupe qui est allé dans les Vosges. Il y avait des Nord-Africains qui étaient d'arrière-plan musulman. Et donc nous avons eu un week-end dans les Vosges où ils ont fait l'expérience des chrétiens. Et quelqu'un dans le groupe a dit, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas pour ce week-end-là du cœur de Père de Dieu ? Oui, d'accord, faisons ça. Mais j'étais surpris et choqué que pendant nos discussions, ce week-end-là, ou cette semaine-là, presque toutes les personnes de ce groupe, presque toutes, ont dit, je ne peux pas identifier Dieu comme étant mon Père. Et j'étais vraiment profondément triste. Ils disaient essentiellement que parce que la pauvreté de la relation qu'ils avaient eue avec leur propre père, qu'il soit abusif ou menaçant ou autre chose, ou même absent, qu'ils avaient du coup ils avaient vraiment beaucoup de difficultés à voir Dieu comme un père. Ils pouvaient le voir comme un Seigneur, comme un Sauveur, et ils étaient vraiment venus à Jésus dans ces termes-là. Mais le Père, c'était vraiment difficile pour eux de concevoir Dieu comme un Père dans leur tête et dans leur cœur. Et je ne sais pas où vous en êtes ce matin à ce niveau-là, mais nous allons... Ma prière est que vous soyez capable d'entendre et de commencer à identifier Dieu comme votre Père parce qu'il est, c'est notre vrai Père et il est parfaitement suffisant et il est plein d'amour et il a vraiment l'intérêt de votre cœur à l'esprit. Avant que je rentre dans le texte, je voudrais juste vous apporter quelques éléments. En étant père moi-même, je voudrais vous apporter quelques instructions en tant que père. Et je cherchais toujours ces moments pour transférer quelque chose, pour apporter quelque chose à mes enfants. Même aujourd'hui. Pardon. Aujourd'hui, nous allons étudier un proverbe ensemble. Et j'aimais beaucoup les soirs où mes enfants allaient se coucher, surtout quand ils étaient petits. Après, quand ils ont grandi, c'est un peu plus compliqué. Mais ces moments de partage au moment du coucher. Comment vas-tu ? Ces moments où ils partageaient des choses qui étaient importantes pour eux. Je pense que c'est une tâche sacrée d'être père. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous autres qui êtes ici, mais c'est ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin, de transmettre des choses de sa nature, parce que nous reflétons des choses de lui. Et donc ce qu'il partage, c'est que voilà ce qu'un père devrait être. Être né dans l'amour et dans l'intérêt de la famille, avoir le désir de pourvoir. Le père devrait avoir une autorité, un pouvoir. Et le père devrait avoir devrait anticiper le futur. Il devrait voir, avoir un aperçu global de la situation. Avoir la direction d'un disciple. Il devrait avoir à cœur de faire de ses enfants des disciples. Donc nous, les garçons, on a plus facilement des difficultés, on se met plus facilement dans des situations difficiles, mais c'est quelque chose aussi qui arrive aux filles. Donc vraiment, que nos fils, on devrait en faire des disciples et des futurs pères, leur donner le sens de la responsabilité et partager notre expérience.
Instructions are born out of what he knows. He's lived.
Donc ce matin, nous allons étudier Proverbes. J'avais l'habitude de les lire tous les matins avec mes fils. Et nous allons juste en lire un petit passage. Les Proverbes sont des généralités. Ils ne sont pas faits pour être des assertions précises comme des équations mathématiques. Ce sont des généralités. C'est généralement comme ça. Les vérités historiques ou, voilà, qui ont été construites dessus, mais ce sont vraiment des généralités basées sur ce qui a été constaté, sur ce qui a été expérimenté, sur ce qui a été vu. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé avec... J'ai travaillé avec les oiseaux, et donc nous avions ces livres qui expliquaient les différentes espèces et qui nous apprenaient à les identifier. Et donc dans ces livres, il y avait des dessins. Il y a aussi des livres avec des photos, mais on se dit, voilà, peut-être que les photos capturent vraiment mieux la vraie image des oiseaux. Mais vous savez quoi? Finalement, les dessins étaient beaucoup plus précis. Pourquoi? Parce que les dessins étaient une compilation d'années d'expérience, d'observation, à vraiment observer énormément d'individus de cette espèce, et ils en ont vraiment retiré les caractéristiques prédominantes, les caractéristiques principales, et ils l'ont compilé dans ce dessin. Donc quand on regardait ces dessins, ce n'était pas juste un oiseau. C'est pas comme si l'environnement influençait, voilà, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil, non. C'est pas comme une photo, c'est vraiment ce dessin, c'est vraiment avoir l'expérience d'avoir observé plusieurs fois cet oiseau et d'avoir vraiment retiré l'essentiel de nos observations. Donc les Proverbes, c'est un peu pareil. Les Proverbes, c'est vraiment des observations, avoir recherché l'avis de Dieu, son opinion sur ces choses-là, et après toute cette expérience, on en a retiré une vérité à laquelle les autres peuvent s'identifier aussi. Et donc, dans les 8 premiers chapitres de Proverbes, ça parle d'un père qui parle à son fils. Les 8 premiers chapitres sont pleins d'un père qui parle à son fils. Écoute-moi. Attention. Et confiance. Voilà. Cherche la connaissance, cherche l'intelligence, cherche la sagesse. Et aujourd'hui, nous allons donc étudier Proverbe 3. Je pense que ces 12 premiers versets sont vraiment une merveilleuse bénédiction. Mon fils. Ça commence directement par mon fils. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas.
And faithfulness forsake you. Bind them around your neck.
Attache-les à ton cou.
Write them
Écris-les sur la table de ton cœur.
So you will find favor.
Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes.
Trust in the Lord.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père, l'enfant qui a sa faveur.
Now, if you're looking at this, there's these couplets of two verses at a time.
Donc vous pouvez remarquer qu'il y a des paires de versets. Ils sont à chaque fois par deux.
Place them up here with the verse indications, verse 1, 2, 3, 4.
Et là, je les ai affichés à l'écran. Et en les regardant, j'ai constaté que Dieu adresse six domaines différents. Et en priant à ce sujet, et en y réfléchissant et en méditant, ce verset est venu à mon esprit. C'est comme si Dieu le Père voulait placer une sorte d'anneau protecteur autour de nous. Pardon, avec chacun de ces couples de versets. Et en y réfléchissant toujours plus, je dis oui, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans notre esprit et dans notre cœur. J'ai vu cette image de couronne sur la tête. Et pour le rendre plus... Pour en faire une leçon plus concrète pour nous ce matin. Et j'ai prié ce matin pour quelqu'un de plus particulièrement. Et Royce, est-ce qu'il est là ce matin? Je vais le faire venir ce matin. Il n'aime pas être devant tout le monde, mais je vais le faire venir. Royce, c'est l'un de nos anciens. Qui est dans l'équipe d'équipe de prière ce matin? Levez votre main. Juby, Ruth. Il y a toujours Paul et François et Thierry et moi.
Have a seat, Royce.
Vas-y, assieds-toi, Royce.
Enjoy yourself, huh?
Vas-y, amuse-toi, relax. Hein? Relax, détends-toi.
I want this to be for all of us today.
Je veux que ça, ce soit vraiment ce soit un message pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Et je voudrais bénir Royce, mais à travers Royce, je voudrais vous bénir tous. Mais maintenant, je vais vous demander des prières toutes particulières pour Royce. Il ne veut pas que je partage les détails, mais il est en train de traverser des moments excitants et intéressants. Vous pouvez lui poser des questions plus tard. Et je crois vraiment que ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin, c'est que Dieu le Père veut que tu connaisses pleinement sa bénédiction. Et alors que Royce... Et alors que Dieu énumère ces six domaines différents que je suis en train d'afficher, que l'on trouve à travers le texte, qui m'ont parlé à travers le texte, j'ai vraiment l'impression... Alors, j'en ai plein. Je voulais en faire une centaine, mais j'ai pas eu le temps. Est-ce que tu as peur? Parfois, vous savez, on peut avoir peur. Mais Royce, c'est un guerrier, donc ça va. Je voudrais juste prier et te bénir, Royce, c'est tout. Et je voudrais poser cette couronne sur ta tête, parce que je pense que c'est ce que Dieu le Père nous dit en tant qu'enfants, à nous, ses enfants, quand on médite sur ces versets. Alors, je vais prier et je vais mettre une couronne pour chaque chose. Père Céleste, je prie ta bénédiction sur mon frère Royce, ton fils, et je prie, Père, que tu bénisses sa tête, que tu bénisses sa vie, qu'il connaisse tes instructions, qu'il ne les lâche jamais, qu'il s'en souvienne dans les jours à venir, qu'il revienne à son esprit et à son cœur, Père, et qu'il sache la vie que tu donnes, la paix que tu donnes, l'abondance que tu donnes, la plénitude que tu donnes. Père, je prie qu'il sache qu'il ait aussi de la place pour l'amour, la fidélité, la bonté qui viennent de toi dans sa vie. Qu'il gagne ta faveur jour après jour, qu'il connaisse que cette sagesse lui a déjà été accordée à travers Jésus. Et Père, je prie pour tes bénédictions, pour qu'elles continuent de se déverser sur lui. Père, je prie aussi qu'il sache qu'il ait ta compréhension et qu'il ne cherche pas à se reposer sur sa propre intelligence, mais qu'il sache que tu rends les sentiers parfaits, que les jours à venir, que son chemin est déjà préparé par toi et que ces sentiers, les sentiers que tu as préparés pour lui sont bons et droits. Père, je prie qu'il sache qu'il connaisse la direction que prend sa vie, qu'il connaisse l'orientation que tu as pour lui, relative à qui il est, par rapport à qui toi tu es, et par rapport au mal qui existe dans ce monde. Qu'il soit mis à part, Père, pour savoir à quel point tu es bon dans tout ça. Père, je prie que qu'alors qu'il travaille et qu'il gagne sa vie et qu'il accumule des possessions et tout ça, qu'il soit béni parce qu'il te donne à toi en premier. Et Père, alors qu'il fait face à ces difficultés et qu'il fera face aux difficultés qui viendront et aux corrections qui viendront de toi parce qu'aucun de nous n'est parfait, mais Père, ramène à son esprit que c'est toi qui le corrige, qu'il connaisse la plénitude de tout ça et qu'il sache qu'il connaisse ton amour et que ton amour va au-delà de tout ça. Et Père, je prie que ces mêmes bénédictions coulent à travers toute l'Assemblée ce matin, dans chacun des cœurs, peut-être dans ceux qui se sentent loin de toi, mais qu'ils sachent qu'ils t'appartiennent, qu'ils sont tes enfants et que tu prends plaisir en eux, qu'ils te sont agréables. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Christ. Amen. Voilà, Roy, ça va? Il a été béni, n'est-ce pas? Il y a de la vie dans ces feuilles. Tu peux les partager si tu veux. Tu peux les partager aussi avec l'équipe de prière qui va prier pour d'autres. Non, tu peux les prendre. Pardon. Donc nous allons regarder ces six domaines différents et donc on va aller un petit peu plus vite là maintenant. Donc le premier domaine, l'attention, le souvenir. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. J'ai compté 10 fois dans les huit premiers chapitres où Dieu le Père parle du fait de se souvenir. Souviens-toi de ce que je t'ai de mon enseignement. N'oublie pas. N'oublie pas. Rappelle-le-toi. Souviens-toi-en. Donc ça doit être dans la partie active de votre mémoire. Souvenez-vous. N'oubliez pas. On doit le tenir fermement. Ça doit être présent et influencé. Ce que l'on va faire. J'ai pas juste partagé rien avec vous. J'ai essayé de vous donner mon cœur. Et je veux que ça vous le compreniez. Nous entendons toutes sortes de voix dans ce monde, chaque jour. Nous sommes inondés. Je me souviens, j'étais au centre-ville de Philadelphie quand je me préparais à être missionnaire et on partageait l'évangile dans les rues et on était dans cette zone commerciale de la ville. Et cet homme est venu vers moi et je crois qu'il était juif. Il était irrité. Qui vous donne le droit de dire ça dans l'espace public? Taisez-vous. Il l'a dit dans d'autres termes, hein, n'est-ce pas? Mais à ce moment, je me rappelle, j'ai regardé autour et je me disais. Et là, j'ai vu toutes sortes de signes. Comment améliorer votre vie? Comment être le plus sexy? Comment être le plus influent, etc. Et donc j'ai dit à cet homme, regarde autour de toi. Il y a plein d'autres prêches qui sont en train d'être annoncées ici, regarde. Mais moi, ce que je partage aujourd'hui, ça brûle dans mon cœur. Et c'est juste et c'est vrai. Et le Père essaye de nous le dire aussi. C'est ce qu'il essaye de nous dire. Que vous soyez leader ou pas, chacun de vous va être un suiveur. On n'a pas le choix. Mais il y a des choses auxquelles on doit croire et auxquelles on doit donner de l'importance. Et qu'on doit suivre. Et combien de fois nous nous souvenons des paroles du Père? Où sont-elles dans notre routine quotidienne, dans votre routine quotidienne? Où sont ces paroles du Père? À quel point êtes-vous actif par rapport à ces paroles? Quel message vous motive? Que laissez-vous vous pousser dans votre quotidien? Regardez-les, identifiez-les. Lesquelles ont attiré votre attention? Est-ce que c'est les sources Google? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été partagé à partir du cœur d'amour, de l'expérience de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas quels souvenirs vous avez de votre père terrestre, j'espère que ça a été riche, mais si ça ne l'a pas été, sachez que vous avez quand même un trésor qui viennent de notre Père Céleste, un cœur sain et solide et stable et fiable et plein d'amour. Donc laissez Dieu attirer votre attention. Il veut vous donner une vie pleine, abondante et longue. Il veut vous donner la paix. Il veut que toutes ces choses complètent votre vie. Accrochez-vous à ces paroles. Comptez sur ces paroles. Il va enlever les fardeaux qui vous prennent la vie. Il va les prendre et les porter. Toutes les autres voix ne comptent pas autant que votre Père. Et votre Père a posé cette couronne de connaissance sur votre tête pour qu'elles influencent tout votre être. Le deuxième domaine, c'est l'identification. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Nous sommes dans l'époque de la crise d'identité. Qui suis-je? Les gens essayent de se trouver depuis les années 50 ou 60, probablement même plus longtemps, mais il y a beaucoup de choses qui ont secoué la culture de notre époque. Il y a tous ces gens mobiles, toute la mobilité, tout ça, ça a changé beaucoup de choses. Les gens essayent de trouver qui ils sont. Mais j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'est-ce qui est écrit sur la table de votre cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit là d'ailleurs? Eh bien, oui. Dieu le Père dit, la bonté et la vérité. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Ne les laisse pas partir. Ne les laisse pas partir. Attache-les. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Vous savez, ces hommes-là qui ont des grands colliers en plaqué or, là, avec des dollars et des pistolets ou d'autres choses. Non, Dieu dit, attache la bonté et la vérité à ton cou. Et si tu ne les trouves pas, il faut vraiment creuser, il faut que tu les déterres parce que tu es. Elles t'appartiennent ces choses, que la bonté et la vérité. Alors en anglais, c'est un amour fidèle. La miséricorde. Manifester de la bonté envers les autres. Manifester la miséricorde. Ça, c'est ce que Jésus est. C'est l'ambassadeur de la bonté et de la miséricorde. Quand il est allé pour guérir, quand il est venu dans ce monde malade, quand il est allé vers son prochain. Et la croix, le but de la croix, c'était justement de mettre ça au centre, d'offrir la vie, de témoigner la miséricorde et l'amour. Et le mot « fidélité », ça peut aussi être la vérité. Pardon. La vérité est constante. Du début à la fin, la vérité ne change pas. C'est un standard. Et ce que j'essaie de dire ici, c'est le slogan de notre famille. Si tu veux savoir ce que tu es, c'est ça, en Christ. Fais que ce soit présent, actif, à ton esprit, dans ton cœur. Que quand tu traverses la vie, s'il y a une chose que je peux partager avec vous, pensez à ça. Seigneur, comment puisse être l'expression de ton amour et de ta bonté aujourd'hui? Comment puisse être un ambassadeur de ta vérité, de ta fidélité? Comment est-ce que je peux le manifester? Alors que je vis ma vie, voilà, vous allez pouvoir trouver tout un tas de gens difficiles, de situations difficiles. Mais si vous pouvez revenir à ça, ça c'est votre maison. Ça c'est ce qui vient de votre père. C'est ce qui doit vous ancrer et vous diriger dans la vie. Ok? Ça, c'est ce qu'il dit ici. Et en le faisant, vous allez gagner sa faveur. Le Père, il dit, voilà, tout tourne autour de moi. Je suis le centre de ta vie. Et il aime ça. Il est question de lui. Et il veut bénir ça.
And also with people, generally speaking, this will gain favor. This is a proverb, okay? So I say generally. Also people that want to crucify you, perhaps.
Oui. Alors j'ai bien dit tout à l'heure que les proverbes étaient une généralité. Donc en général, si vous exprimez ces choses, si vous exprimez la bonté, la vérité, la fidélité, la gentillesse, vous attirez la faveur des personnes, des autres, de votre prochain. En général, pas que les chrétiens. Alors je dis bien que c'est en général, il peut y avoir aussi des personnes qui n'apprécient pas ces choses, mais encore une fois, nous sommes dans la généralité. Donc nous sommes des personnes de bonté, de vérité, d'amour. Donc ça, c'est avoir de bonnes relations. Alors, je me souviens que j'ai déjà considéré le suicide, et j'ai déjà considéré le suicide dans ma vie, et je sais que je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait des personnes qui m'exprimaient vraiment de la bonté, de l'amour, et ils m'ont montré, et ces personnes-là ont montré qu'il était bon de vivre et de continuer de vivre parce que la bonté existe, parce que ces choses existent, parce que ces relations sont possibles. Donc, il est important d'exprimer ces choses. Le troisième domaine, c'est la compréhension. Donc, il est vraiment question de comprendre et d'avoir confiance en le fait. Voilà. Sachez qui vous êtes, votre identité. Les versets 5 et 6 disent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Celui-là m'a une fois frappé de manière vraiment forte. Je n'étais pas encore chrétien et j'ai lu ces versets un jour sur un petit papier qui était accroché au-dessus du bureau d'un chrétien que j'admirais. Et là, je suis vraiment partie dans une colère folle quand j'ai lu ces choses, quand j'ai lu ces deux versets. Alors là, je disais, voilà, il s'agit simplement d'avoir la foi, on jette son intellect, on jette sa compréhension, et c'est juste, voilà, on croit Dieu, et c'est comme ça. Ça m'a vraiment mis très en colère. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai réagi. Jusqu'à ce que la prochaine pensée vienne à mon esprit, qui était, voilà, c'était vraiment une flèche qui a traversé ma tempe, et c'était Scott. Donc je l'ai vraiment entendu de manière très personnelle. Scott, s'il y a un Dieu qui existe, il est plus grand que ton esprit. Et ça m'a vraiment frappé. Et là, j'ai vraiment réalisé que j'avais tout, je l'avais mal lu. Je l'avais lu comme si moi, j'étais le maître de la situation et que je devais choisir et ce qui était bon et ce qui n'était pas bon et que je devais constituer mon propre Dieu à travers ces choses. Non. Dieu est celui qui décide. C'est celui qui sait. Il est celui qui sait tout. Il est celui qui est digne de confiance. Mais tout ça, vous savez, mes paroles, ce sont de la pratique. Jusqu'où dépendons-nous de nos propres forces et de notre propre intelligence? Est-ce que nous acceptons vraiment les choses quand nous avons l'impression de les contrôler? Est-ce que vous le laissez vraiment vous diriger à travers la vie plutôt que en considérant ce que vous pensez être bon? Est-ce que vous dépendez vraiment de lui? La Bible est pleine d'événements auxquels on ne s'attendait pas, même la croix. Je veux dire, qui aurait imaginé que c'était la solution de l'énorme problème que nous avions en dehors de Dieu? Et qui les ont suivis? Mais ceux qui ont écouté Dieu. Combien de temps passez-vous à écouter Dieu? Combien de temps passez-vous dans la prière? Combien de temps passez-vous à écouter ce que Dieu veut vous dire? Et là, il est question de notre vie. C'est une question vitale de passer du temps à écouter ce que Dieu veut nous dire. Au verset 6, il parle du fait de reconnaître, de le reconnaître dans toutes nos voies. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, d'une certaine manière, aujourd'hui, voilà, c'est Thanksgiving, c'est l'apprécier, c'est lui dire merci. Regardez là où il a agi, comptez les bénédictions, les nommer une après les autres. Regardez, voir les choses à travers cette perspective-là. Le reconnaître dans tout ce que l'on fait. Où est-ce que je vais voir Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il a été actif? Où est-ce que je vais pouvoir le rencontrer? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la vie des gens? Si la majorité partie des choses que je vois autour de moi sont difficiles, il est quand même là, il est quand même en train de faire quelque chose. Sa grâce est toujours active. Nous devons avoir conscience de Dieu, nous devons pratiquer cette conscience de sa présence. Nous devons rechercher sa voie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il rendra nos sentiers droits? Il nous conduira directement à l'objectif. Et on y prendra plaisir. Ce sera vraiment un chemin plein de joie. Ça peut être quelque chose de tordu, de difficile. Et on peut se demander, voilà, comment a été le voyage pour moi? Comment a été mon chemin ces derniers temps? Est-ce qu'il a été chaotique? Est-ce qu'il a été difficile? À quel point est-ce que j'ai compté sur mes propres forces? À quel point j'ai écouté d'autres voix que celles de Dieu? On peut regarder un petit peu les années passées avec ces questions-là. À quel point êtes-vous engagé à suivre vraiment ces instructions? Alors, au verset 7 et 8, nous sommes sur le thème de l'orientation. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os.
I put on this orientation or the regard. Which way are you looking? How are you considering?
Dans quelle direction regardez-vous? Comment vous considérez-vous? Comment considérez-vous Dieu et le mal dans ce monde? Quelle est votre orientation? Je crois qu'il est question de l'attachement aussi. Êtes-vous vraiment, laissez-vous vraiment Dieu être le maître? Est-ce que vous savez qu'il y a quelque... Enfin, si vous savez qu'il y a quelque chose de mauvais, qu'il y a une emprise sur votre vie, l'avez-vous nommé pour ce que c'est? L'avez-vous reconnu pour ce que c'est? Pensez-vous toujours trop à vous-même? Ou alors est-ce que Dieu est si important que sa voix est si importante dans votre vie que vous voulez obéir? Vous voulez suivre sa direction, vous voulez suivre sa voix. Certains d'entre nous ont des têtes dures et des cœurs durs, et j'en fais partie. Il y a tellement de fois où j'ai continué à faire de mauvaises choses. Dans quelle mesure est-ce que je suis vraiment sérieux pour dire « Ok, ça c'est un péché » et appeler le péché péché? Ou est-ce que je le laisse un petit peu prendre sa place dans ma vie, et je l'amoindris et je dis « Voilà, le mensonge, le... » Et combien d'entre vous ici, les hommes, ou d'entre nous, les hommes, ont un problème avec la pornographie, avec la sexualité? Ça peut être, oui, le mensonge, la tricherie. Mais le péché doit être appelé pour ce qu'il est. C'est mauvais. Et donc, est-ce qu'on se tient? Il faut vraiment tenir à ça, à appeler le péché pour ce qu'il est, à appeler le péché péché. Est-ce que vous êtes vraiment clair au sujet de ce qu'est le péché? Parce que ça vous pèse, ça vous tire vers le bas. Le contraste entre être tiré vers le bas, c'est la bonne santé. Et Dieu dit, moi je veux que tu sois en bonne santé, que tu sois que tu sois plein de vie, que tu sois vigoureux. Donc j'arrive dans un endroit qui n'est pas toujours très clair. S'il y a des problèmes de santé, souvent je pense que c'est lié à des domaines spirituels sur lesquels nous avons besoin d'être vraiment clairs. Je dis souvent, pas toujours, mais souvent, quand nous avons des problèmes de santé physique, il y a des vulnérabilités qui viennent de compromis ou de déviance sur le plan spirituel, et elles sont des portes ouvertes et elles affectent, je pense qu'elles affectent. Voilà, je parle de suicide et de tout ça, mais voilà, il y a des docteurs et je ne veux pas prendre la place des docteurs ici, mais Dieu dit, si tu es clair avec moi, si tu es clair devant moi et que tu me crains et que tu m'honores, et oui, je dois faire la volonté de Dieu, c'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. Donc, reste loin du mal. Reste loin du péché. Et ne pense pas que tu peux décider dans ce cas-là parce que ça te tirera vers le bas. Je peux parler de ça. Hein. J'ai récemment eu une crise cardiaque. Fait une crise cardiaque, pardon. Une artère qui était bloquée. Est-ce que j'avais une manière sage de vivre? Non, je sais pas. Je mangeais pas bien, je faisais pas d'exercice. J'étais impliqué dans des choses qui induisaient un mauvais stress, et la liste continue. Donc je loue le Seigneur parce qu'il a été miséricordieux et je reviens sur le bon chemin. Donc alléluia, gloire à Dieu. Pardon. Donc l'humilité nous amène à la bonne santé.
Et donc, il ne nous laisse pas ici. Il continue. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. La question clé ici, je vais juste la faire très simple et aller droit au but. C'est simplement ça. Est-ce que Christ est le vrai trésor de votre cœur? S'il c'est le cas, si c'est le cas, vous voulez les bénédictions, n'est-ce pas? Vous voulez le voir à l'œuvre. Vous voulez voir le retour qui vient de sa main. Et lui donner, ce n'est pas un problème. Parce qu'il est le trésor de ma vie. Je vendrai tout pour lui, pour être avec lui. Parce qu'il est ce que j'ai de plus grande valeur dans ma vie. Mais la question est, sommes-nous? Est-ce que c'est vraiment la manière dont nous abordons les choses? Est-il vraiment notre plus grand trésor? Quand on reçoit notre salaire, qu'est-ce qu'on veut en faire? La question, elle est aussi simple. Pourquoi est-ce que l'argent est important pour vous? Est-ce que c'est juste pour manger, payer les factures, avoir une maison? Ou est-ce qu'il y a un attachement par rapport à ça? Des choses qui sont reliées à ça. Et Dieu examine les choses de notre cœur. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment un proverbe. Il y a on peut avoir la tendance à l'utiliser comme un évangile de prospérité. Voilà, allons-y, faisons ça et on sera riche. Non, ce n'est pas la motivation ici. Ça, c'est manipuler Dieu dans le but de devenir riche, en fait. Non, Dieu veut vous bénir, en général. Et en général, quand on lui donne, on découvre, wow, quelle abondance j'ai entre les mains. Donc, j'ai un défi pour vous. Mettez-le au défi. Voilà. Testez Dieu. Regardez ce qu'il fera. Regardez ce qu'il fera. Et il multipliera la manière dont vous appréciez ce que vous avez. Il changera votre regard sur ce que vous avez. Est-ce que vous l'aimez tellement que vous vous assurez qu'il est la première place, quels que soient les retours, en fait? Je m'en fiche de ce que je reçois en retour, parce qu'en fait, je l'ai lui. Et que dans tous les cas, vous passerez l'éternité dans le meilleur des endroits. Donc, donnez à Dieu d'abord, et vous constaterez l'abondance. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père l'enfant qui a sa faveur. Et voici ma question pour vous. Est-ce que ça va avec le reste du passage? C'est un petit peu différent. Et donc ça, c'est la dernière couronne qu'il met sur la tête de son fils en disant, tu vas être corrigé, je vais te corriger. Tu vas être déçu dans la manière dont tu vas répondre aux événements de ta vie. Parce que je veux que tu saches ce qui est bon et ce qui est bien et ce qui est mal. Pour ceux d'entre vous qui sont perfectionnistes, ça va être doublement plus difficile. Parce que vous allez confronter votre propre incapacité à être un super-homme ou une super-femme. Mais Dieu veut vous bénir d'une autre manière. Il veut que vous appreniez davantage au sujet de son amour. Il aime tellement ceux qu'il reprend. Il vous aime. Et en réalité, vous devez vous dire merci. Merci Seigneur. Je sais que tu exprimes ton amour en m'enseignant ce qui est bon, plutôt que de vous flageller, de vous faire du mal et de vous en vouloir, de culpabiliser. Il faut chasser l'accusateur dans nos vies et voir le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce qui nous reprend pour notre bien. Nous allons être corrigés de nombreuses fois parce que lui, il est parfait dans toutes ses voies. Et nous ne le sommes pas. C'est merveilleux. Donc il faut accepter la correction. Accepter la correction, c'est connaître, faire l'expérience, connaître l'amour de Dieu, savoir que c'est l'amour de Dieu. Donc ces six domaines, et vous savez ce que Dieu a fait à travers chacun de ces domaines ? Quand il dit, je veux attirer ton attention pour que tu saches ces choses et que tu vives longtemps. Je veux pour toi une vie longue et une vie de plénitude et d'abondance. Il veut que nous ayons de bonnes relations, un chemin prometteur, une bonne santé, l'abondance et la connaissance de l'amour. Voilà ce que le Père a dans son cœur. Voilà l'intention du Père pour nous. Et vous savez quoi ? Et le chemin pour les avoir, ça passe par le cœur. Et chacun de ces domaines adresse ce que nous avons dans notre tête et quelles sont les affections de notre cœur. Et il dit, je veux être ton seul amour. Je veux ton amour exclusif. Je veux cette place. Et je veux que tu aies la vie dans cet endroit, à cette place. Et c'est une invitation. Quand le Père pose ses couronnes sur nos têtes, et nous sommes protégés, donc c'est vraiment un chemin de découverte. Prions. Père, je veux encore une fois prier tes bénédictions, que ces couronnes soient sur chacune des têtes des personnes présentes ici, et sur la mienne aussi. Parce que nous avons vraiment désespérément besoin de toi. Tu es celui, tu es le seul, l'unique, notre trésor. Tu es notre vie. Que nous ne nous trompions pas là-dessus, que nous tenions vraiment à la vérité. Tu tiens tous les aspects de notre vie. Et tu tiens les clés. Tu es un bon Père. Nous nous réjouissons en toi. Dans le nom de Jésus. Amen.